Bienvenue sur ma chaîne Ton bac de français en poche. Je m'appelle Anaïs et je suis professeur particulier. J'accompagne les lycéens dans leur préparation aux examens et concours. J'ai créé Ton bac de français en poche pour que tu puisses préparer tes épreuves de français tout au long de l'année, sans prise de tête, en révisant n'importe où avec des ressources à portée de clic. Aujourd'hui, nous allons traiter le dernier objet d'étude, la littérature d'idées. Je t'invite à télécharger la petite fiche comme d'habitude. Alors, nous allons voir dans un premier temps la définition de la littérature d'idées et ensuite l'évolution de la pensée en fait entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Alors, la littérature d'idées, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des textes en fait qui appartiennent à des genres variés mais qui entrent dans le champ de l'argumentation, qui en fait vont explorer des questions fondamentales que peut se poser l'homme. Alors l'homme est un être doué de raison et un animal politique qui vit en société, donc il va s'intéresser par exemple à des thématiques comme l'éducation, la religion, les femmes, etc. La littérature d'idées permet de développer l'esprit critique des lecteurs. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ? La littérature d'idées, c'est tous les textes en fait qui vont défendre des valeurs, des idées, ou plutôt plus précisément une thèse, c'est-à-dire que l'auteur va prendre position avec des exemples et avec des arguments pour montrer la validité, la légitimité de son raisonnement dans le but de remporter l'adhésion du destinataire, c'est-à-dire de rallier à sa cause le lecteur. Alors, il a pour cela, il a deux stratégies privilégiées. Premièrement, il peut chercher à convaincre, donc il va faire appel à la logique, à la raison de son lecteur. Ou il peut chercher à persuader son lecteur. Alors, c'est beaucoup plus rapide, parce que là, il est un peu plus dans une stratégie de séduction, c'est-à-dire qu'il va chercher à se connecter à son lecteur, à faire appel à ses sentiments, à ses émotions, et à créer une complicité avec lui. Donc là, il va mettre en avant sa propre crédibilité, son éthos, il va montrer qu'il est quelqu'un de fiable, et que du coup sa parole est crédible. Alors, il existe trois grands répertoires, trois grands genres oratoires en ce qui concerne l'argumentation. On a le genre délibératif, donc ça va concerner les textes où on va avoir l'idée d'une prise de décision. On a aussi le genre judiciaire, où là on a plutôt des textes qui vont peut-être reprendre une scène de procès, où on va avoir un jugement. Et enfin, il y a le genre épidictique. Là, c'est les textes qui vont plutôt souligner une évaluation, donc où on va louer ou blâmer quelqu'un ou une institution, etc. Enfin, ce qu'on peut dire sur l'argumentation, c'est qu'elle elle peut se faire sur deux modes. Soit sur le mode direct, lorsque finalement l'auteur assume son propos et s'implique personnellement. C'est le cas dans le traité, la lettre ouverte, la maxime, la sentence, l'essai, le manifeste, etc. Et puis il existe un mode d'argumentation indirecte, où cette fois-ci l'auteur va utiliser la fiction pour déléguer sa pensée à un personnage ou à un narrateur, afin de s'effacer, bah, déjà pour ne pas être attaqué ou pour ne pas risquer d'être censuré ou pire. Alors là, c'est le cas, par exemple, dans la fable, dans l'utopie, dans la dystopie, dans le roman, dans l'apologue, le conte philosophique, etc. On voit bien, du coup, qu'il y a deux façons de faire, mais finalement, si on réfléchit bien, toute œuvre véhicule, en fait, une vision du monde. Que ce soit un roman, que ce soit une poésie, une pièce de théâtre, il y a toujours quand même la vision du monde de l'auteur qui est rattachée. Donc finalement, il est difficile de sélectionner ce qui entre ou pas dans l'argumentation, parce qu'on pourrait presque tout y mettre finalement. Donc il faut faire bien attention à ça. Maintenant qu'on a donné une définition plutôt claire de, enfin je l'espère, de ce qu'est l'argumentation ou la littérature d'idées, on va voir maintenant comment, sur la période du programme, chaque siècle va élaborer son propre savoir en prolongeant, contestant, dépassant l'héritage qu'il a pu recevoir. Le XVIe siècle s'inscrit dans la période historique de la Renaissance. Alors, la Renaissance, c'est un mouvement qui trouve son origine en Italie vers le XIVe siècle et qui va s'achever au début du XVIIe. D'accord? Donc c'est en fait une espèce de renouveau dans les arts, dans les sciences, qui va permettre progressivement de tourner le dos au Moyen-Âge, de sortir du Moyen-Âge, de questionner différemment le monde. L'humanisme va s'inscrire du coup dans ce mouvement historique, cette période historique de la Renaissance. Alors, dans l'Italie en fait du XIVe, humanista c'est le professeur de rhétorique et de grammaire. Mais progressivement, le sens de ce mot va s'élargir et va se répandre aussi partout en Europe. Alors, l'humaniste effectivement c'est quelqu'un qui aime le savoir, mais c'est plus forcément un prof. C'est simplement quelqu'un qui aime le savoir. Et puis progressivement, les lettres humaines vont désigner en fait l'étude de ce qui rend plus digne du nom d'homme. Donc finalement, on sent déjà rien que dans le nom de ce courant que l'homme va avoir une place très très importante dans les textes, dans les écrits, dans les réflexions de ses auteurs. Alors, en fait, l'humanisme va véhiculer deux grandes idées. D'abord, on va avoir une nouvelle représentation du monde et ensuite une nouvelle représentation de l'homme. Alors, je vais faire étape par étape. Dans la nouvelle représentation du monde, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'humanisme arrive à un moment où il y a eu d'énormes découvertes, hein. On a quand même découvert ce qu'on a appelé le Nouveau Monde, donc il y a une espèce d'élargissement, non seulement géographique, un élargissement spatial de fait, mais aussi un élargissement des mentalités. Donc il y a le Nouveau Monde qui va entraîner des questions sur la colonisation, sur l'esclavage, qui va permettre d'installer une forme de relativisme, une forme de remise en cause, d'interrogation sur l'autre, sur sa différence, sur ce qui fait aussi l'humanité, sur l'universalité, etc. On va aussi avoir, à cette même période, il y a eu aussi en arrière-plan la chute de l'Empire romain d'Orient. Attention, parce qu'il y a deux empires romains, Occident et Orient. Donc la chute de l'Empire romain d'Orient qui sonne la fin du Moyen-Âge. Hein. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand l'Empire romain d'Orient s'effondre, du coup, les musulmans qui reprennent Constantinople, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, les savants byzantins vont fuir, du coup, et vont emporter avec eux, déjà, ce qu'ils ont pu lire, ce qu'ils ont pu apprendre, etc., mais aussi certains ouvrages de l'Antiquité, et vont les ramener, du coup, vers la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Et du coup, ce qui va faire qu'on va redécouvrir certains textes de l'Antiquité et ce qui va expliquer aussi cette espèce d'intérêt, de passion pour l'Antiquité. Et ça, évidemment, ça va modifier la perception qu'on a du monde puisque on va redécouvrir les philosophies de l'Antiquité, etc. On va les réactualiser. Ensuite, on a aussi pas mal de progrès scientifiques, notamment en astronomie, avec la théorie de l'héliocentrisme qui pose en fait que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, va complètement modifier les représentations qu'on peut avoir non seulement du monde, mais ça va aussi venir chambouler les croyances religieuses de l'époque, etc. Donc ça va être vraiment une découverte très importante. On a aussi des découvertes en médecine grâce aux dissections qui sont remises en cause par l'Église qui refuse un petit peu ces pratiques-là. Bref, tout ça, en fait, ça converge vers une remise en cause, globalement, des dogmes religieux. Et on a progressivement cette méfiance qui va s'installer face aux dogmes, en fait. Et on le voit notamment avec des traductions, il y a beaucoup de traductions de la Bible qui permettent d'apporter, en fait, de rapprocher, pardon, le croyant des écritures pour pouvoir un petit peu éjecter un petit peu les prêtres, etc., pour permettre aussi un accès plus direct à la religion. D'ailleurs, dans ce même esprit, on va avoir la réforme protestante en 1517, portée par Luther et en France par Calvin. Ça va créer vraiment un gros gros choc au niveau des mentalités, et surtout ça va créer une scission au sein de la population entre catholiques et protestants, et ça va entraîner, je ne t'apprends rien, les guerres de religion. Donc on voit qu'au niveau de la représentation du monde, globalement, on a d'énormes bouleversements. Mais la représentation de l'homme va aussi complètement changer. On va avoir une foi en l'homme, une confiance en l'homme, en ses capacités, en ce qu'il peut faire. Et on va arrêter de penser l'homme uniquement dans son rapport à Dieu. On va voir l'homme comme un être libre et comme un être capable. D'ailleurs, l'idéal humaniste, c'est un homme éduqué, un homme qui cherche à apprendre, qui se nourrit de plusieurs disciplines, avec la figure, et on a la figure du génie universel avec Léonard de Vinci, à la fois artiste, mais aussi érudit, savant, architecte, enfin bref, voilà, il a vraiment d'énormes connaissances pratiquement dans tous les domaines. Cet appétit de connaissances est soutenu par une découverte très importante, plutôt par l'invention de l'imprimerie. L'imprimerie va permettre plusieurs choses. D'abord, de se libérer des moines copistes, parce que, évidemment, vu qu'il n'existait pas de machine pour pouvoir écrire, enfin, pardon, pour pouvoir publier des livres, il fallait bien que quelqu'un les recopie. Donc, on va se libérer de la figure du moine copiste et de la censure, globalement, de la religion. Et surtout, on va diffuser au plus grand nombre les idées. D'ailleurs, les idées vont circuler partout en Europe, créant ainsi ce qu'on a pu appeler la République des lettres, avec vraiment la diffusion des œuvres comme celle d'Erasme, de Rabelais, etc. Alors, ce culte, en fait, hein, qui est voué finalement au savoir, est relié, en fait, tout naturellement à l'idéal qu'ont les humanistes d'une éducation nouvelle, d'une éducation qui n'est plus sous l'emprise de la religion et qui est beaucoup plus appropriée à l'enfant, avec par exemple l'autorisation du jeu, mais aussi une éducation finalement moins violente, plus douce. Voilà, on va avoir un tout nouveau modèle d'éducation. Alors, on le retrouve dans les textes de Montaigne, mais on le retrouve aussi... Alors, chez Montaigne, par exemple, ça prend la forme d'une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de gaver l'enfant d'informations, il ne s'agit plus de tout savoir, de tout mémoriser, d'être un simple perroquet, mais plutôt de vraiment former l'esprit critique de l'élève. Et on retrouve ce même idéal chez Rabelais, avec la lettre célèbre de Gargantua à son fils Pantagruel, où il attend de son fils qu'il devienne un abîme de science. Donc vraiment l'idée d'un,
encore une fois, de la figure du génie universel, de l'homme éduqué sur tous les plans. Et l'éducation ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les puissants. Il s'agit aussi de former les rois, les puissants, afin de pouvoir, on va dire, assurer le bonheur du peuple. Et d'assurer aussi la paix, en fait, tout simplement. Ça va permettre aussi, alors toutes ces thématiques, on va les retrouver dans tout type de texte, mais on a aussi l'utopie hein, qui va naître, enfin, qui existe déjà depuis l'Antiquité, mais qui va vraiment se prendre corps dans le livre de Thomas More, Utopia. L'utopie qui va permettre de rêver, de décrire une société rêvée, idéale, où tout est parfait en fait, et qui va permettre de faire la critique en creux de tout ce qui ne va pas dans la société. Voilà pour le 16e. Au 17e siècle, on va voir se transformer cet idéal humaniste en idéal de l'honnête homme. Alors, l'honnête homme, c'est tout d'abord celui qui est noble et celui qui vit en société, donc c'est en premier lieu le courtisan, d'accord ? L'honnête homme, il doit être d'abord vertueux, hein, honnête au premier sens du terme, mais aussi... Il doit donner une apparence d'honnêteté, c'est-à-dire qu'il doit, être sociable. Il doit respecter les codes de la galanterie, les codes de la politesse, de la conversation. Il doit être aussi éduqué, cultivé. Il est curieux, il a de l'esprit. Il fréquente d'autres honnêtes gens. Surtout, il fonde tous ses choix sur sa raison et il ne se laisse pas aveugler par ses passions, il ne se laisse pas conduire par ses passions. Il a le sens du juste milieu, de l'équilibre, de l'harmonie. Ni il ni miss, il incarne cette devise d'Horace qui signifie rien de trop. Voilà, ce modèle, ce parangon va donner lieu à pas mal d'ouvrages. Qui vont décrire, qui vont dresser le portrait de cet honnête homme. Alors, on a l'ouvrage le plus connu, c'est celui de l'Italien Baldassare Castiglione, Le Courtisan, mais il y a eu d'autres traités de civilité qui vont vraiment développer, le portrait en fait de l'honnête homme à l'époque de Louis XIV. Alors, on a par exemple le discours sur la vraie honnêteté du chevalier de Méret. Bon. Cet idéal, il ne va pas tenir tout au long du XVIIe. Il y a un moment donné où il va être fragilisé, en fait. Tout simplement parce que la cour, jusque-là, elle est vraiment... Alors, il faut bien penser que la cour, c'est une construction politique qui permet, et notamment au XVIIe, qui permet notamment à Louis XIV de tenir la noblesse et d'éviter que les nobles complotent dans son dos. Donc comme ils sont obligés d'être à des endroits précis, à des moments précis de la journée, toute leur vie est rythmée en fait. Donc ils n'ont pas le temps de comploter. Mais il faut bien comprendre que du coup la cour est vue comme le summum de la société, et surtout comme un miroir du ciel. Le roi, c'est Dieu, et les nobles qui gravitent autour de lui, c'est l'équivalent des anges et des saints. D'accord ? Donc, jusque-là, voilà, le courtisan, il est vraiment mis sur un piédestal. Et progressivement, certains auteurs vont gratter un peu la surface, le vernis de ce personnage, hein, parce que ça n'existe pas vraiment, un honnête homme, c'est un idéal. Donc, ils vont gratter un peu le vernis, et on va avoir une confrontation, en fait, de... l'honnêteté en tant que valeur intrinsèque, c'est-à-dire en tant qu'être quelqu'un d'honnête, et l'apparence d'honnêteté. Et cette confrontation de l'être et du paraître, c'est vraiment une des thématiques très importantes du XVIIe, qui va être notamment explorée par les moralistes. Alors, les moralistes, ce sont des auteurs, attention, qui ne cherchent pas à faire la morale, c'est pas ça du tout, on parlerait plutôt de moralisateurs. Non, les moralistes, eux, ils observent la société, simplement. Ils observent et ils dénoncent ce qui ne va pas dans la société, ils critiquent, mais sans plus. Ils ne cherchent pas à nous imposer une morale. Alors, comment ils font ? Ils font des portraits, des caractères, pardon, des maximes, des fables, des contes, bref. Ils utilisent plusieurs genres et plusieurs registres afin de dénoncer les travers de la société. Et l'un de ses travers, c'est justement le fait que le courtisan, finalement, n'est qu'une coquille vide. C'est-à-dire que il mise tout sur l'apparence, mais au fond, il n'est pas si honnête que ça. Alors, notamment parce que il est dirigé par une passion qui est l'amour-propre. Et l'amour-propre, ça va vraiment devenir l'ennemi des moralistes, notamment de Pascal ou encore de La Rochefoucauld, qui vont montrer en fait que finalement l'honnête homme, il est très égoïste en fait, il pense beaucoup, 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 il est nombriliste, il pense beaucoup à lui-même. Du coup, voilà, ça remet vraiment en cause la notion d'honnête homme et on bascule plutôt vers une notion d'hypocrisie en fait, un peu plus, hein. Ensuite, sur cette période, on va avoir la querelle des anciens et des modernes. Alors, du côté des anciens, en fait, on a tous les auteurs qui pensent que l'Antiquité est un âge d'or qu'on ne pourra jamais dépasser et qu'on peut simplement essayer d'égaler. Mais on ne pourra jamais faire mieux. Du coup, ils vont prôner l'imitation des œuvres de l'Antiquité. Les modernes, quant à eux, pensent que la littérature est susceptible de progresser. Alors, par exemple, Charles Perrault, lui, va défendre le point de vue moderne dans son poème « Le siècle de Louis le Grand » qu'il va présenter à l'Académie française, et où il va vraiment montrer que les modernes peuvent inventer de nouvelles choses très puissantes. Voilà un petit peu pour le XVIIe siècle. On a donc ce modèle de l'honnête homme qui va progressivement être remis en cause, mais on a aussi un auteur qui éclaire vraiment cette période et qui est vu à l'époque vraiment comme une star, hein, qui est adulé à l'époque, c'est Descartes. Alors, on n'en a pas parlé, c'est un philosophe. Je vais en dire juste quelques mots. C'est un philosophe qui va marquer vraiment cette période et qui va permettre d'ailleurs à la philosophie d'entrer dans l'ère moderne, de la philosophie moderne, avec sa réflexion autour de la notion de raison et de la notion de méthode. Alors, avec la notion de méthode, hein, il a d'ailleurs marqué le classicisme. Hein. Dans l'idée de méthode, on retrouve l'idée de règles, le fait d'être carré, de suivre des étapes, de respecter un schéma préétabli, bref. Mais non seulement il a, du coup, influencé les classiques, il était vraiment un repère pour les classiques, alors pas juste pour ça, mais aussi, par exemple, pour le fait qu'il a... qu'il était contre les passions et que voilà, il était plutôt du côté de la raison. Il a aussi en fait influencé et amené en fait créé une espèce de transition vers le 18e et vers les Lumières, puisque c'est vraiment avec Descartes que la raison devient un concept très important. Alors déjà, Bayle en 1697 disait: le prochain siècle sera de jour en jour plus éclairé. En comparaison, tous les siècles précédents ne seront que ténèbres. Il annonce déjà par là le 18e qui sera en fait le siècle des Lumières. Alors les Lumières, c'est les Lumières de la raison qui vont permettre à l'homme de mieux se connaître, de mieux comprendre le monde et surtout qui vont venir éclairer toutes les parties qui étaient restées en fait dans les ténèbres jusque-là. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que ces ténèbres, ou ce qu'on appelle aussi l'obscurantisme? C'est tout ce qui s'oppose au progrès, tout ce qui s'oppose au savoir, à la connaissance, à la raison. Donc, l'intolérance, l'ignorance, l'injustice, les préjugés, l'absolutisme, etc. Ce courant va remettre finalement une nouvelle forme d'idéal en jeu, et donc à la figure de l'honnête homme va succéder la figure du philosophe. Le philosophe, il a encore un lien avec l'honnête homme, parce qu'il est sociable, parce qu'il fréquente les salons, parce que il place la raison avant tout. Il est honnête, etc. Mais le philosophe a de nouvelles manières de faire. Le philosophe est un homme de combat, un homme aussi de conviction, de valeur, et il va les défendre par l'écriture. Donc ça, c'est très important. Alors, les valeurs des Lumières, des philosophes des Lumières, c'est la foi en l'homme. Donc on va récupérer les valeurs humanistes. Donc ils vont vraiment développer les valeurs humanistes comme la liberté, l'égalité, la quête non plus du salut, mais la quête du bonheur, la tolérance, la justice, la paix. Ils vont aussi mettre en avant la valeur de laïcité, du respect, en fait, du choix religieux de chacun, sans condamner la religion en général, mais simplement le respect de chacun dans sa différence. Autre valeur très forte, ça va être celle, finalement, d'une justice sociale et d'une société juste, où le pouvoir est juste, un pouvoir juste. Donc, ils vont essayer de mettre en place un accompagnement, en fait, du roi, un accompagnement du pouvoir, avec le despotisme éclairé. Donc, alors, ils vont écrire vraiment différents types d'œuvres. Les philosophes les plus connus sont Voltaire, Rousseau, Diderot, mais il y en a plein d'autres. Là, je cite juste les plus connus. Ce qui va aussi marquer le XVIIIe siècle, c'est bien sûr l'encyclopédie. Donc c'est un travail colossal qui dure à peu près une vingtaine d'années, qui permet de publier des volumes qui rassemble l'ensemble du savoir de l'époque, en fait, et pour permettre un accès, en fait, à tout le monde au savoir. C'est plus de 70 000 articles et plus de 150 savants qui y ont participé, donc c'est vraiment l'œuvre qui aura marqué ce siècle-là. Cette œuvre montre aussi que malgré la diversité de leurs points de vue, ils arrivent à s'entendre sur des grandes lignes directrices finalement qui leur sont communes et qui sont en fait leurs valeurs. Voilà, on a pu voir tout ce que pouvait signifier le mot argumentation ou littérature d'idées. On a vu que ça recouvrait des textes très variés, des réalités très différentes, mais qu'il y avait toujours comme point commun en fait entre tous ces textes une volonté de soutenir des valeurs ou une thèse de la part de l'auteur. On a pu voir aussi finalement l'évolution sur la période et le fait que finalement les valeurs du XVIe siècle, les valeurs qui ont pu émerger avec l'humanisme, on a vu qu'elles se sont étoffées entre ces siècles et que finalement l'époque des Lumières a permis d'entériner toutes ces notions qui étaient déjà apparues au XVIe, comme la tolérance, la liberté, etc. On est allé plus loin et finalement on a consolidé finalement l'héritage humaniste, même s'il y a eu quelques réglages. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour traiter de l'épreuve orale. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater et à mettre 5 étoiles pour récompenser mon travail. N'hésite pas à me suivre également sur Instagram, Facebook, Pinterest et même TikTok maintenant pour un max de contenu gratuit. Je te laisse avec une petite citation de La Fontaine pour te permettre de continuer à réfléchir à cette notion d'argumentation directe et indirecte. Alors, dans Le Lion et le Chasseur, il nous dit « Une morale nue apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de courage pour ce jeudi. Je suis sûre que tu vas assurer. Et puis j'ai hâte d'avoir tes retours, soit en message sur Instagram, soit en commentaire. N'hésite vraiment pas, ça me fera super plaisir. Merci pour ton écoute. Je te dis à bientôt sur ma chaîne.